Chapitre 4. Madame Jacquot s'était mise en quête d'une voiture pour Marie, ne voulant pas qu'elle descendît au village à pied à cause du mauvais état des chemins obstrués par la neige, et Jean Brunner, le laitier, s'était offert à la prendre sur son traîneau qui devait partir à 8 heures. « Vous vous êtes levé plus tôt qu'à l'ordinaire, » dit Madame Jacquot, lorsque Marie, souriante et fraîche comme une rose d'hiver, entra dans la cuisine où elle déjeunait avec ses fils. « À 6 heures, je vous entendais déjà bargater dans votre chambre. »« C'est que je vais dans le monde aujourd'hui, » répondit Marie en riant. « Il fallait me faire belle. »« Prubé que sais-je, » dit Madame Jacquot en hochant la tête. « Vous ne savez pas ce que cela signifie ? Assez beau qui est sage. Il est vrai que vous êtes sage aussi. Mais avalez vite votre café, Jean Brunet n'est pas patient, il ne faudrait pas le retarder. » 2 minutes après, des grelots retentirent devant la maison. « Vite, mon capuchon, ma pelisse !» s'écria Marie. « Adieu, Madame Jacquot, me permettez-vous de vous embrasser ?» « Au revoir, monsieur Fritz, vous saluerez votre frère de ma part, puisqu'il a disparu. » Jules venait en effet de s'éclipser, mais au moment où Marie, installée dans le traîneau, faisait de la main un dernier signe d'adieu, il reparut tout essoufflé, chargé d'une grosse couverture et d'une énorme brassée de paille. Marie se demandait pour qui toute cette litière, lorsque Jules, à 5 pas du traîneau, s'arrêta subitement. « Tiens, » dit-il brusquement à son frère, « arrange ça. » Puis il lui passa à la hâte son chargement, fit volte-face et disparut dans la maison. Toute sa sauvagerie naturelle s'était réveillée au moment où il essayait la première galanterie de sa vie. Étendre cette couverture sur les genoux de Marie, arranger cette paille autour de ses pieds, au moment de consommer cette action inouïe, il en avait entrevu toutes les conséquences et tous les dangers. Et, rougissant jusqu'aux oreilles, il avait battu en retraite comme un Télémaque prudent fuyant les charmes de Calypso. Son frère, beaucoup moins timoré, installa la jeune fille aussi confortablement que possible. Puis le fouet claqua, le gros cheval gris secoua son collier de grelots et le traîneau glissa sur la neige durcie. La journée promettait d'être splendide, car le vent du nord avait chassé tous les nuages et le ciel brillait de cet azur pâle et limpide qui, bien mieux que le bleu trop intense du ciel d'Italie, éveille l'idée poétique de l'éther infini. Marie, enchantée de sa partie de traîneau, regardait avec délices autour d'elle, s'amusant à suivre du regard le jeu capricieux des étincelles du givre qui s'allumait par myriades devant les voyageurs et semblait s'éteindre derrière eux. Une belle journée d'hiver est chose délicieuse, mais peu de gens en jouissent sans arrière-pensée. Pourquoi donc? Parce que la bise rougit le nez et qu'avec un nez rouge, le plus joli minois, vous l'avouerez, devient méconnaissable. Pour nous autres philosophes, ce détail n'a pas d'importance. Nous marchons, libres de préjugés, le nez à la bise, laissant cet ornement de notre visage prendre toutes les nuances qui lui plaira. Mais je connais maintes jolies demoiselles qui n'a jamais admiré les beautés du paysage hivernal que d'un œil seulement, parce que, de l'autre, elle s'efforçait d'apercevoir le bout de son nez pour en constater la couleur. Marie, cependant, avait sagement mis de côté toute coquetterie et regardait de ses 2 yeux autour d'elle. Tout à coup, elle tressaillit et, touchant le bras de son compagnon, « Qu'est-ce que j'aperçois là-bas » fit-elle vivement. « Vous devez le savoir mieux que moi, vos yeux sont plus jeunes que les miens. »« Je ne me trompe pas. Arrêtez le cheval un instant, monsieur Brunner, il faut que je descende. » Elle mit lestement pied à terre au moment où celui qu'elle venait d'apercevoir allait croiser le traîneau. « C'est vous, Joseph, » dit-elle, « je suis bien aise de vous rencontrer. » C'était le vagabond, en effet, l'air encore plus misérable et plus gelé qu'à leur première rencontre. « Et pourquoi donc nous avez-vous quittés si brusquement, jeudi soir ?» continua Marie. « Madame Jacquot n'était pas très satisfaite. »« Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» demanda-t-il d'un ton anxieux. « Je n'y ai rien compris, mais répondez-moi vite, car Monsieur Brunner est pressé. » « Je devais aller ailleurs. Je vous jure que ce n'était pas pour du mal. Est-ce que vous me croyez ?»« Oui, et je ne vous demande pas autre chose. Mais qu'allez-vous faire aujourd'hui? C'est dimanche, vous savez. »
Dimanche ou pas, ça m'est bien égal, répondit-il en éludant la question. Il fait froid le dimanche comme un autre jour.
Trop froid pour une conversation sur le chemin, grommela le laitier, mécontent de cette halte.
Marie se hâta de remonter dans le traîneau, mais tout en cachant ses pieds dans la paille et ses mains dans son manchon, elle regardait le pauvre garçon qui restait debout au bord du chemin et qui frissonnait tout en la contemplant avec des yeux brillants d'un singulier éclat.
« Comme vous êtes pâle !» dit-elle en sentant son cœur se serrer. « Avez-vous mangé quelque chose ce matin ?»«
Pas encore, mais je vais déjeuner chez... »
Marie n'entendit pas le nom qu'il prononça, car le laitier avait fait claquer son fouet et le collier de grelots secoué par le gros cheval couvrit d'un tintement multiple et sonore la voix de Joseph. Lorsqu'un instant après, la jeune fille regarda derrière elle, elle aperçut le pauvre garçon debout à la même place, suivant des yeux le traîneau qui s'éloignait.
Et le revenant, demanda M. Depierre à Marie lorsqu'ils revinrent ensemble du temple.
C'est un personnage très pacifique. Il ne m'a pas encore étranglé, comme vous voyez, et M. Jules revient tous les soirs bredouille, bien qu'il monte sa garde très consciencieusement.
On ne saura sans doute jamais le fond de l'histoire.
Dites à Jules Jacot que je le relève de cette corvée en le remerciant de sa complaisance.
Comment se conduit le jeune domestique des Vermont ?
Bouquet, c'est un garçon étonnant. Il s'est montré d'abord d'une stupidité inconcevable pour le calcul, mais imaginez donc qu'il le faisait exprès pour n'être pas chargé des factures de son maître. Puis il a changé tout à coup sans que je puisse en comprendre la raison. Il faut que je vous raconte aussi une rencontre que j'ai faite l'autre soir. »
Alors, elle dépeignit en termes si émus la misère et l'abandon du pauvre Joseph que M. Depierre en fut touché.
« Vous raconterez cela à ma femme et nous chercherons ensemble un moyen de venir en aide à votre protégée. »
« Ma chère, dit-il à Madame Depierre en introduisant Marie dans un petit salon confortable et bien chauffé, « parmi les innombrables comités dont tu es membre, ne s'en trouverait-il point un dont la mission spéciale fut de protéger des garçons boiteux de 15 à 16 ans ?»
Il parlait d'un ton à demi plaisant qui surprit Marie. Mais Madame Depierre savait qu'il était dans les habitudes de son mari de dissimuler ainsi ses émotions.
« S'il ne s'en trouve point, répondit-elle, nous en fonderons un.
De quoi s'agit-il ? »
Marie recommença son récit. Puis le passeur prit la parole.
« En résumé, dit-il, vous avez vu ce garçon deux fois et il vous a fait une impression favorable. J'ai certainement confiance en votre bon jugement, mais quoi que ce soit que nous voulions faire pour Joseph, il est indispensable que nous nous procurions sur lui d'autres renseignements. » Si cela m'est possible, je monterai demain ou après-demain au Crozet et nous verrons alors ce qu'il y aura à faire.
Pour le moment, venez dîner, dit Madame Depierre.
Marie passa une journée fort agréable. La femme du pasteur possédait cette amabilité simple qui part du cœur et gagne les cœurs. Et ses enfants, attirés par le doux sourire de Marie, retenus aussi par les belles histoires qu'elle leur raconta, s'attachèrent si fort à elle que le moment du départ fut signalé par une désolation générale. Il n'était que 3 heures, mais la jeune fille devait encore aller prendre à l'autre bout du village une personne qui remontait aussi au Crozet.
« Revenez aussi souvent que vous pourrez, lui dit Madame Depierre. Nous serons toujours charmés de vous voir. »
« À dimanche prochain, sœur Marie !» s'écrièrent les enfants.
« Comme ils sont tous bons pour moi !» pensait la jeune fille en traversant d'un pas agile les rues couvertes de neige.
Madame Jacot est pleine aussi de sollicitude à mon égard et ses filles se sont bien humanisées depuis le premier jour. Voilà Bouquet tout transformé et Joseph dont on fera un honnête homme. Je soutiens que le monde est rempli d'excellentes gens et qu'on n'a qu'à ouvrir les yeux pour en découvrir des douzaines.
Ce fut dans cette heureuse disposition d'esprit qu'elle remonta sur ses sommets. Un panache de fumée s'élevant du toit de la vieille maison lui fit comme un signe d'amicale bienvenue aussitôt qu'elle arriva sur le plateau.
« Madame Jacot fait du café pour me recevoir, » se dit Marie.
Bien mieux, Madame Jacot avait fait du thé et des bricelets, de sorte que la jeune fille, assez fatiguée de son ascension, trouva pour se réconforter une collation appétissante.
« J'ai eu l'ennui de vous, Marie, » dit la vieille dame. « Il m'a semblé tout le jour qu'il me manquait quelque chose. J'ai d'ailleurs été seule toute l'après-midi, car mes deux garçons étaient sortis. Mais voilà Fritz qui arrive. »
Il revenait d'une longue course, le nez et les oreilles rougis par la bise, assez peu semblable à un Adonis, mais rempli de bonne humeur. Henri-Louis Roulet, qu'il avait rencontré dans sa promenade, l'accompagnait. Tous deux s'assirent pour prendre aussi une tasse de thé.
« Comme ça, vous avez dîné aujourd'hui chez Monsieur le ministre ?» dit Henri-Louis à Marie. « Sans indiscrétion, est-ce que vous êtes parent ?»«
Non, pas du tout. »
« Mais de la même commune, quoi ?»«
Je ne sais pas. »«
C'est qu'il s'intéresse bien à vous. Même, on dit qu'il est votre tuteur et qu'il soigne votre argent. »«
Il aurait peu de choses à faire, » dit-elle en riant.
« Ce n'est pas vrai. Venez voir comment les gens arrangent des histoires. Mais ça ne peut pas manquer d'arriver quand on se mêle toujours des affaires des autres. » C'est ce que je dis à ma femme qui ne fait que trotter à droite et à gauche pour s'informer du tiers et du quart. Balaie devant ta porte, que je lui dis, et ne t'inquiète pas tant des voisins. On chantait aussi que vous étiez fiancée avec le neveu de Monsieur le ministre, ce grand blond qu'on a vu par ici l'automne passé, et que c'est pour ça que Monsieur Depierre vous réclame tant.
Quelqu'un vient, interrompit Madame Jacquot en entendant un pas dans le corridor. Marie se leva pour ouvrir la porte au nouvel arrivant et fut très surprise en reconnaissant Bouquet.
« Bien le bonsoir, » dit-il en entrant d'un air gauche.
« Je voudrais... Est-ce que mademoiselle la régente aurait la bonté... Mais c'est que... »
Il levait en même temps sur Marie un regard troublé qu'elle remarqua.
« Entrez ici, » dit-elle en l'introduisant dans sa chambre. « Vous m'expliquerez ce que vous désirez. »
Il obéit avec empressement et tira la porte derrière lui.
« Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. On a besoin de vous, » dit-il d'une voix basse et précipitée. « Venez vite, je vous en supplie, mais non pas avec moi, on nous remarquerait. Dans quelques minutes, quand je serai parti. »
« Où donc ?» demanda Marie étonnée.
« Dans votre classe. Prenez la clé, la porte est fermée. N'ayez pas peur, mais il ne faut rien dire à personne. »
Et, avant que Marie eût pu lui adresser une autre question, il était précipitamment rentré dans la chambre commune, avait salué à la hâte et s'était éclipsé. Marie, fort perplexe, restait debout à la même place. Que faire ? Se rendre dans sa classe était certes en soi une action bien simple, mais le mystère dont elle devait l'envelopper lui déplaisait. Cependant, on avait besoin d'elle et tout de suite avait dit Bouquet. Marie jeta un coup d'œil vers la fenêtre, vit qu'il faisait encore clair au dehors et prit rapidement sa décision. Elle mit à la hâte son châle et son chapeau et après avoir dit à Madame Jacquot qu'elle avait quelque chose à faire dans sa classe, elle sortit. Une sensation de trouble et d'inquiétude faisait battre son cœur et la pensée que sa démarche paraîtrait bien inconsidérée si on venait à la prendre ne contribuait pas à lui rendre son calme. Elle tressaillit vivement en entendant derrière elle des pas précipités et, se détournant, elle reconnut Henri-Louis Roulet qui se hâtait pour la rejoindre. Flairant un mystère dans l'air troublé de Bouquet et de Marie, il avait brusquement pris congé de ses hôtes et s'était élancé avec une noble ardeur sur les traces de la jeune fille.
« Comme ça se rencontre !» fit-il tout essoufflé. « Nous avons justement le même chemin.
Je croyais que le sentier qui conduit à votre maison prenait plus haut.
C'est vrai, mais ça ne me dérange pas beaucoup de passer par ici. Vous allez chercher un livre, quoi ?»
Marie ne répondit rien et hâta le pas.
« Vous faites bien de vous dépêcher, » continua son désagréable compagnon en réglant immédiatement sa marche sur celle de la jeune fille. « La nuit sera là dans 10 minutes. Mais si vous craignez de revenir seule à la maison, vous n'avez qu'à dire un mot, je vous attendrai pour vous reconduire. »«
Non, je vous remercie. » »«
Ne vous gênez pas, au moins. J'ai bien le temps. Philippe peut traire à ma place. Est-ce que vous en aurez pour longtemps ?»«
Je ne sais pas. »
« Tiens, c'est curieux.
Vous savez pourtant ce que vous allez faire, quoi ?»«
Bonne nuit, monsieur Roulet !» répondit Marie en s'élançant d'un pied leste sur le pont qui conduisait à sa classe. Puis, faisant tourner la clé dans la serrure, elle disparut.
« Je vous demande un peu si c'est honnête de planter les gens comme ça !» s'écria Henri-Louis, tout député. « Pour une cacharde, c'en est une, celle-là. Et puis, ça n'a pas tant bonne façon, tous ces mystères. Il faut aller boire une chopine chez Philibert Perret pour lui demander ce qu'il en pense. »
Un peu ragaillardi à cette idée, Henri-Louis se mit en marche avec un entrain juvénile, sifflotant entre ses dents le refrain de la Valanginoise, ce qu'il ne faisait que dans des circonstances particulièrement réjouissantes. Ce brave Henri-Louis était né éminemment sociable. Au lieu de se tenir à l'écart comme tant d'autres et de boutonner hermétiquement son habit sur des amas de secrets, il s'empressait au contraire de communiquer à ses semblables tous les renseignements qu'il avait pu acquérir sur le compte du cher prochain. Son ardeur d'expansion était si vive qu'il hâta encore le pas et se mit finalement à courir pour arriver plus vite à l'endroit où il pourrait se débarrasser de son fardeau de confidence.
« Oh, hé, père, est-ce que tu prends le moraudant ?» demanda tout à coup une voix peu gracieuse. C'était son aimable fils qu'il n'avait pas vu venir dans l'obscurité croissante.
« Ah, c'est toi, Philippe, qu'est-ce que tu fais là ?»«
Eh bien, je me promène. Les chemins sont à tout le monde, je pense. »
« Il est mal tourné, » pensa Henri-Louis. « Il ne faudrait pas dire mouche noire. »
« Viens voir un bout avec moi, » continua-t-il. « Il faut que je te raconte du nouveau. »«
Tu es pire qu'une vieille femme avec tes racontes, » grommela Philippe, qui le suivit néanmoins, possédant, paraît-il, sa part légitime de la curiosité paternelle. Le récit de l'incident, revu, corrigé et considérablement embelli, parut avoir pour Philippe un très vif intérêt.
« En tout cas, ce n'est pas clair, » marmotta-t-il. « Et puis, quand on se cache, c'est pour mal faire. »
Il en savait, paraît-il, quelque chose.
« Cette petite demoiselle qui fait tant la sucrée, » continua-t-il avec un méchant sourire. Mais il s'interrompit. « On n'a pas les pieds au chaud dans la neige. Bonsoir. » Et il s'éloigna. Nouvelle déception pour Henri-Louis, qui était bien loin d'avoir tout dit en fait d'interprétation et de commentaires. Force lui fut cependant de refouler le flot de ses épanchements jusqu'au moment où, arrivé chez Philibert, il put enfin jouir avec délice de l'impression causée par ses récits. Mais il ne connaissait que la préface de l'histoire. C'était à son heureux fils qu'il était donné en ce moment d'en entrevoir le nœud et même d'en vouloir fabriquer le dénouement. La première pensée de l'intelligent Philippe avait été que la régente, objet de sa rancune, faisait du mal puisqu'elle se cachait. La seconde, qu'il serait beau de la prendre en flagrant délit, puis de l'aller crier sur les toits. La troisième, car c'était un garçon prudent, qu'il fallait prendre ses précautions pour rester anonyme. Là-dessus, il se glissa dans l'ombre jusqu'à la maison des Vermoux, en fit le tour, puis, jetant un regard oblique sur les fenêtres de la classe et remarquant un mince filet de lumière filtrant par une fente des volets, il sourit d'un air de triomphe, se cacha valeureusement derrière un tas de briques et attendit. Jules Jacot s'était attardé dans sa promenade de l'après-midi. Il avait passé chez un cousin qu'il avait retenu et il ne reprit qu'assez tard le chemin de la maison. Cependant, ses longues enjambées le ramenèrent avant 5 heures au Crozet. Au moment où, à une bifurcation du chemin, il allait prendre à droite pour remonter chez lui, il lui vint à l'esprit qu'avant de rentrer, il ferait aussi bien de descendre jusqu'à la maison Vermoux pour son inspection quotidienne. « J'imagine, se disait-il en marchant, que Claude ne serait pas enchanté d'apprendre que je rôde ainsi tous les soirs autour de sa maison. S'il me priait de me mêler de mes affaires, je n'aurais que ce que je mérite. C'est un métier de mouchard que je fais là. » Monsieur le ministre a eu tout de même une drôle d'idée de m'en charger. « Hé, mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Il faut voir ça de près. » Le même rayon indiscret que Philippe avait remarqué venait de frapper ses yeux. « Qu'est-ce que je vais trouver là ? » se demandait-il en avançant avec précaution. « Après tout, ce n'est peut-être que Claude qui veille dans la classe. » Le valeureux Philippe, bien abrité derrière son rempart de briques, était devenu tout yeux et ne respirait plus.
Cet homme qui s'avançait à pas furtif, mais en se dirigeant directement vers la porte, comme s'il était sûr qu'elle allait s'ouvrir pour lui, par quel singulier hasard arrivait-il donc, à cette heure indue, dans un endroit où personne n'avait rien à faire le dimanche, et par quelle coïncidence plus singulière encore, y arrivait-il presque en même temps que la jeune institutrice ? Il faut avouer qu'il y avait là manière à étonnement, même pour une personne moins prévenue que ne l'était le rancuneux garçon. « Elle se laisse faire la course, disait-il, et elle peut compter sur moi pour que tout le Crozet le sache avant demain. Mais qui diable est le galant ? Pas fichu de le reconnaître. Il fait noir comme dans un four et ce tas de carons me gêne encore. Hé, mille !» Ce juron inachevé fut suivi d'une lourde chute, puis on entendit une dégringolade de cordure, un ou deux soupirs, et ce fut tout. Le pauvre Philippe était décidément né sous l'étoile des bosses et des meurtrissures. En s'avançant vivement pour mieux voir l'inconnu, il avait donné du front contre l'angle d'une brique, si rudement qu'il avait vu danser 100 000 chandelles et qu'il était tombé à terre juste à temps pour recevoir confortablement la grêle d'une douzaine d'autres briques que cette secousse avait dérangées dans leur équilibre. Mais ces légers désagréments trouvèrent bientôt leur compensation et Philippe sentit courir dans ses membres meurtris un frémissement de joie lorsque l'individu mystérieux, s'avançant au bord du pont de Grange, lui laissa voir la silhouette distincte de son bonnet conique à haute forme. Ce bonnet, fait d'une peau de loup tout hérissée, était unique et célèbre dans le voisinage. D'ailleurs, Philippe était payé pour le connaître, car il avait pu le contempler à son aise le jour où ses oreilles avaient tant souffert. Il n'eut donc aucune hésitation et il serra les poings en marmottant « Ah, c'est toi, brigand ! Tu me le paieras !» Puis il ne bougea plus. Du haut de son observatoire, Jules avait bien remarqué ses mouvements étranges et entendu le bruit de l'éboulement. Il allait ne faire qu'un saut du pont jusqu'en bas quand il vit le petit rayon s'éteindre tout à coup. Craignant de lâcher la proie en courant après l'ombre, il se ravisa et marcha droit à la porte. On ne l'avait pas fermée en dedans, de sorte qu'elle s'ouvrit aussitôt qu'il appuya sur la poignée. « Eh !» se dit-il, « on entre ici comme dans un moulin !» Mais il s'arrêta stupéfait. Marie se tenait devant lui, pâle, l'air effrayé. « Que voulez-vous » commença-t-elle. Mais elle le reconnut aussitôt. « Quoi, c'est vous, monsieur Jules ? » s'écria-t-elle d'un air d'indicible soulagement. « Quelle délivrance ! Venez vite et dites ce qu'il faut faire !» En parlant ainsi, elle l'entraînait au fond de la salle jusqu'à la sombre alcôve aux vieux rideaux jaunes. La flamme vacillante d'une chandelle y répandait une si faible clarté que Jules dut regarder pendant plusieurs secondes avant de distinguer aucun objet. Sur le lit avait été jeté un amas confus de vêtements en guise de couverture, et après une longue recherche, l'œil reconnaissait dans ce chaos d'ombres et de formes mal définies un visage dont les traits demeuraient indistincts et deux bras maigres dont l'un s'agitait avec des mouvements fébriles tandis que l'autre restait enlacé au cou d'un garçon penché sur le lit. Jules ne dit rien, mais son regard interrogea la jeune fille. « C'est Joseph André, » répondit-elle à demi-voix. « Je crois qu'il a une pleurésie. »« Et comment est-il ici ?» « Je ne le sais pas encore. Bouquet allait me le dire quand vous êtes entré. » Le rude et grossier garçon semblait transformé. Penché sur le lit et s'y appuyant d'une main, il restait immobile dans cette position fatigante pour ne pas déranger le malade dont le bras entourait son cou. De temps en temps, il lui adressait quelques amicales paroles et répondait patiemment aux divagations de son esprit en délire. Puis il posait sa forte main sur le front de Joseph et caressait doucement ses joues creuses. « Aussitôt qu'il me laissera aller, je vous raconterai tout, » dit Bouquet à voix basse, « mais vous voyez qu'il me tient comme s'il avait peur. Allons, Joseph, laisse-moi me relever un peu. Je ne m'en irai pas, je te le promets. Je reste ici, tout près de toi, et je tiendrai ta main dans la mienne. « Où est-elle ? » demanda Joseph en ouvrant de grands yeux brillants de fièvre. « Qui ? De qui parles-tu, mon pauvre Joseph ?»« Elle est dans le traîneau, » continua le malade. « Là-bas, vois-tu, n'est-ce pas qu'elle est belle ? Qu'est-ce que j'ai écrit dans la neige ? Je ne me souviens plus, c'est comme un tourbillon dans ma tête, et j'ai si mal ici !» En même temps, il appuya la main sur son côté et fit un effort pour respirer, mais la douleur lui arracha un gémissement. Bouquet s'était peu à peu redressé et regardait le malade avec une tristesse inquiète. « Maintenant, vous allez tout savoir, » dit-il en se tournant vers Jules et Marie. « Si quelqu'un a mal agi, c'est moi. Joseph n'a pas même su ce que j'avais fait pour lui. Il y a longtemps que je le connais. Une fois que je m'étais sauvé dans la pâture après avoir été battu, il m'a consolé et m'a donné de son pain. Depuis lors, je l'ai aimé comme un frère et il m'aimait aussi. L'hiver passé, il était venu plusieurs fois au Crozet et il ne savait pas toujours où coucher. Alors, j'ai pensé que la classe était bonne chaude le soir, qu'il y avait même un lit et qu'il y pourrait bien dormir sans gêner personne. Par malheur, le maître s'y tenait toujours pendant la veillée. C'est pour cela... » Il s'arrêta, parvenu à l'endroit critique de sa confession. « C'est pour cela que je les ai épouvantés avec une invention de revenant et ça a bien réussi. Tous les soirs, Joseph m'attendait près de la porte de l'écurie. Aussitôt que le maître avait le dos tourné, je venais lui ouvrir et il montait dans la classe. « Tu n'as jamais été aussi bien logé que cet hiver, n'est-ce pas, pauvre ami ?» dit-il en se penchant vers Joseph avec une touchante tendresse. « Ce soir, continua-t-il, il est revenu bien malade. C'est à peine s'il pouvait se traîner. Ses yeux brillaient comme quand on a la fièvre et il tenait ses deux mains sur son côté en me disant qu'il n'osait pas respirer. Par bonheur, tous nos gens sont sortis, de sorte que j'ai pu prendre une chandelle à la cuisine et monter pour lui aider à se coucher. C'est alors qu'il a commencé à divaguer et que j'ai couru chercher mademoiselle la régente parce qu'elle avait été bonne pour Joseph, comme il me l'a raconté. » Il y eut un silence. Marie le rompit en s'adressant à Jules. « Qu'allons-nous faire ? » dit-elle. « Portez ce garçon chez nous, » répondit-il laconiquement. « Mais que dira madame Jacquot ?»« Elle grondera, » fit-il avec un tel calme que Marie ne put s'empêcher de sourire. Jules enleva alors son paletot afin d'ôter le gilet de laine qu'il portait dessous et enveloppa soigneusement le malade dans le chaud tricot. « Ce n'est pas assez, » dit-il en regardant autour de lui. « Il faudrait encore une couverture ou quelque chose de pareil. »« Prenez mon châle, » dit Marie en le lui tendant. « Mais vous ? » ?»« Oh, ne vous inquiétez pas de moi, il ne fait pas très froid ce soir. Je pense que nous allons partir. » « Oui. » « Toi, Bouquet, passe-moi encore sa veste et ses souliers. Tu auras soin de fermer la porte quand nous serons sortis. »« Faut-il raconter la chose au maître ?» demanda Bouquet avec une nuance d'inquiétude. « Eh bien, je ne sais trop. Qu'en pensez-vous, mademoiselle ?»« Je crois qu'il faudra le faire tôt ou tard, » dit Marie après avoir réfléchi un instant. « Mais attendez, cependant. Monsieur Depierre doit monter demain ou après-demain et il nous donnera un bon conseil. » Elle espérait que la présence du pasteur retiendrait Claude et épargnerait à Bouquet une correction brutale. Cependant, Jules avait doucement soulevé le malade et après l'avoir enveloppé jusqu'aux yeux, il enleva dans ses bras robustes aussi facilement que s'il prenait un bébé dans son berceau. Marie allait sortir quand Bouquet l'arrêta. « S'il vous faut un jour quelqu'un qui se jette au feu pour vous, ne cherchez personne d'autre que moi. » « Vous me rendrez bien aussi quelques services plus simples, n'est-ce pas ?» fit Marie avec un sourire. « Bonsoir, Bouquet. Si vous le pouvez, venez demain voir votre ami. » Ah, si Philippe Roulet eût été encore à son observatoire, il aurait ouvert de bien grands yeux en voyant paraître ce groupe mystérieux et suspect d'une jeune fille et d'un homme portant un fardeau de forme étrange, et sa vive imagination en aurait sans doute tiré immédiatement les inductions les plus bienveillantes. Mais l'aimable jeune homme venait d'abandonner son poste, s'y sentant gelé sur place, et il reprenait en ce moment le chemin de la maison paternelle, portant alternativement la main à son coude un peu meurtri par la chute et à son front sur lequel se développait rapidement une protubérance inconnue au phrénologue. Pour se consoler, il rêvait, chemin faisant, à des compresses d'eau fraîche qu'il appliquerait sur les parties froissées de sa chère personne et à la gentiane paternelle, souveraine contre les refroidissements, dont on lui accorderait bien une goutte, vu la solennité des circonstances. D'ailleurs, la joie dans son âme était pleine, versée comme un baume sur ses meurtrissures. Quand Henri-Louis revint à la maison vers 9 heures, il trouva son fils au lit, la tête entourée de linge, comme un brave qui revient de guerre. « Où est-ce que tu t'es donc cogné ?» demanda ce père plein de sollicitude. « Tu ressembles à un beau baki. »«
Je sais du nouveau, pas, mais avant que je te le raconte, donne-moi une larme de gentiane. Je me suis gelé en faisant le pied de grue dans la neige et je pourrais bien avoir attrapé un bon rhume. »
Henri-Louis mesura lui-même la dose du précieux breuvage avec une prudente parcimonie. Mais au moment de tendre le verre à Philippe, il ressentit tout à coup dans son cœur de père un douloureux contre-coup des épreuves de son fils et l'impérieux besoin d'un réconfortant quelconque. C'est pourquoi, remplissant le verre d'une main beaucoup plus libérale, il en avala lui-même le contenu. Son héritier, trompé dans ses plus légitimes espérances, fit le point sous la couverture.
« Puisque tu me filoutes pas !» fit-il indigné. « Tu ne sauras pas un mot de mon histoire !»
Et voir un peu de patience, répliqua le père en reprenant la bouteille. Je voulais seulement goûter si c'était de la bonne. Tiens, bois ça, et à présent, dis ce que tu sais. Philippe, réconforté par le doux élixir, fit à son père le récit de ses découvertes. Quand il eut tout dit, Henri-Louis remit son chapeau sur sa tête.
Je crois bien que je vais retourner chez Philibert, dit-il, poussé par une nouvelle ardeur d'épanchement. Puisque je leur ai raconté le commencement de l'affaire, ils seront tous bien aises d'en savoir la fin. Va, tu as diantrement d'esprit, mon garçon. »
Il va sans dire qu'aucun des habitués de chez Philibert ne s'étonna de ce dénouement. On avait bien prévu que cela finirait ainsi. Il y avait une amourette là-dessous, cela sautait aux yeux, et chacun individuellement avait deviné que Jules Jacquot devait y jouer un rôle. Mais on s'était gardé de communiquer ses conjectures parce que, vous savez, on n'aime pas à supposer le mal, on craindrait de faire tort à son prochain. Cependant, maintenant que l'histoire était parfaitement avérée, chacun se faisait un devoir, comme aussi un plaisir, d'y ajouter son interprétation particulière, avec quelques maximes morales heureusement appropriées ou quelques faits propres à jeter de la clarté sur une partie de l'histoire demeurée obscure. On eut donc bientôt réuni une quantité de preuves établissant d'une manière irrécusable que Jules Jacquot et la régente avaient eu du goût l'un pour l'autre dès le premier jour, mais qu'Henriette Jacquot ne voulait pas entendre parler d'une bru si jeune, de sorte que les deux amoureux en étaient réduits à se voir en cachette. Jean Brunner, le laitier, qui se trouvait présent, obtint un succès d'enthousiasme en racontant comment, le matin même, lorsque la demoiselle était montée sur son traîneau, Jules s'était empressé de lui apporter une brassée de paille et une couverture, ce qui peignait suffisamment l'état de son cœur, et comment, tandis qu'elle lui adressait son plus aimable sourire, il avait tout à coup jeté à son frère paille et couverture et s'était enfui, ayant probablement aperçu sa mère qui se tenait derrière la fenêtre et craignant qu'elle ne lui fît une scène. Après un tel témoignage, le doute n'était plus possible et ce fut d'un ton pénétré qu'Henri-Louis le déclara, ajoutant que, pour son compte, il avait prévu la chose du moment où l'on avait annoncé l'arrivée d'une si jeune régente. Il proposa ensuite que, charitablement et sans compromettre personne, on avertît Henriette Jacquot de ce qui se passait, afin qu'elle pût prendre ses mesures en conséquence. Lui-même s'étant noblement chargé de cette mission délicate, chacun acheva sa demi-chopine et l'assemblée fut dissoute. Les objets de cette touchante sollicitude ne se doutaient guère de l'honneur qui leur était fait. Sans cela, ils n'eussent peut-être pas dormi aussi paisiblement. Madame Jacquot, ainsi que Jules le prévoyait, avait bien un peu grondé en recevant le pensionnaire qu'on lui amenait si inopinément, mais c'était pour la forme, afin de maintenir les traditions. Car, tout en grondant, elle s'occupait activement à improviser un lit sur le canapé. Puis elle pria Marie de lui chercher dans le bureau la médecine populaire de Rion, afin de consulter cet oracle de famille à l'article « Pleurésie ». « De la moutarde et du sinapisme, j'en ai », dit-elle après que l'oracle eut parlé. « De l'huile de ricin aussi, Dieu merci ». Pour ce qui est du liniment, je ne sais trop si nous aurons de quoi le fabriquer. C'est bon, il y en aura assez pour cette nuit.
Voici du camphre, et il doit y avoir dans un des tiroirs du bureau un petit flacon d'ammoniaque qu'on avait acheté pour toi quand tu avais ce gros rhume de cerveau. Cherche-le, Jules, et mets un peu le nez dessus pour sentir s'il s'est évaporé. Tu feras ensuite le liniment dans les proportions que le livre indique. Vous, Marie, ouvrez l'armoire du linge et donnez-moi le paquet de flanelle qui est au fond. Puis, lorsque ces ordres furent exécutés et que le malade eut reçu les premiers soins, la bonne dame s'installa sur une chaise et exprima le très légitime désir d'avoir quelques explications. Jules laissa à Marie la tâche de narrer l'événement, se contentant de hocher de temps en temps la tête en signe d'approbation. Madame Jacquot suivit avec le plus vif intérêt les phases diverses du récit, s'apitoyant, s'indignant tour à tour et déclarant à plusieurs reprises que c'était une histoire à mettre dans l'almanach. Ainsi, ce fameux revenant s'était bouqué. Qu'est-ce que monsieur le ministre va dire quand il le saura? Et les Vermeaux? Je gage qu'ils n'y voudront pas croire parce qu'ils seront trop vexés d'avoir été si bien attrapés. Mais ce n'est pas tout que de bavarder ainsi. Voilà tantôt 9 heures et il faut nous organiser pour la nuit. » Il fut décidé que Fritz et Jules veilleraient alternativement le malade. Madame Jacquot voulait aussi sacrifier son sommeil, mais ses fils s'y opposèrent formellement et elle céda, faisant remarquer tout bas à Marie combien son Jules et son Fritz étaient attentifs pour leur vieille mère, mais déclarant à haute voix que les enfants de notre temps ne connaissent plus l'obéissance. L'état de Joseph s'était, semblait-il, un peu amélioré. La fièvre avait diminué et le point de côté était devenu moins douloureux grâce à l'application du liniment que Jules avait consciencieusement agité en tous sens pendant 15 minutes. Madame Jacquot était très fière de ce résultat qu'elle constata avant d'aller se coucher et, lorsque Marie parla d'envoyer le lendemain chercher le docteur, elle fit une moue dédaigneuse comme si elle eût été la faculté en personne. Un docteur ? Bon Dieu ! Pour qu'il traîne ce garçon sur le long banc pendant 6 semaines et qu'il le laisse à moitié guéri, avec une pleurésie chronique qui reviendra tous les hivers jusqu'à ce qu'elle l'emporte ? Dans notre famille, nous n'avons jamais eu d'autre docteur que celui-ci, ajouta-t-elle en frappant sur le vieux livre dont la couverture usée et les feuillets cornés annonçaient en effet un fréquent usage. Un bon emplâtre de cire crosse et quelques onces d'huile de ricin remettront notre garçon sur pied en moins de 15 jours. Allez bravement vous coucher, Marie, et dormez tranquillement. 15 minutes après, la maison reposait dans l'ombre et le silence. Seule, la faible lueur de la veilleuse brillait encore, éclairant vaguement la grande chambre aux boiseries noircies. Fritz, qui devait veiller pendant la première partie de la nuit, avait pris un livre pour chasser le sommeil. Le silence n'était troublé que par le léger frôlement des pages qu'il tournait de temps en temps et par la respiration courte et saccadée du malade.